Je me trouvais en Andalousie au commencement de l'automne 1830. J'étais un archéologue en longue excursion. J'avais loué à Cordoue un guide et deux chevaux. Je mourrais de soif. J'étais harassé de fatigue et brûlé par un soleil de plomb. Nous arrivâmes, mon guide Antonio et moi-même, sur la pelouse d'une sierra. Il y faisait frais. Une grotte nous attendait avec une source vive. Nous vîmes un homme.
Regardez,
me dit Antonio.
Nous ne sommes pas seuls dans ce paradis terrestre. Il y a un jeune gaillard de taille moyenne. Il est d'apparence robuste. Son regard est sombre et fier. Regardez, il porte une espingole de cuivre. Quel air farouche!
Je ne crois plus aux voleurs,
répondis-je.
À force d'en entendre parler, je ne m'en soucie plus.
Je saluai donc l'homme qui s'approcha de nous et lui demandai s'il n'avait pas un briquet.
Oui, monsieur,
répondit-il.
Vous n'êtes pas andalou? Vous n'avez pas l'accent? Je vous donne un cigare, vous allez le trouver assez bon. Faites-moi confiance, je suis un amateur. Vous verrez, c'est un Havane.
Ah, comme il y avait longtemps que je n'avais pas fumé,
répondit l'homme. Nous étions devenus complices.
Je suis originaire du partido de Montilla. Vous avez un vieux canasson. Mon cheval est un pur sang de Nara de Cordoue. C'est un noble animal qui peut faire 30 lieues en un jour. Comprenez, je suis très pressé. Je dois aller à Cordoue pour demander l'aide des juges dans le cadre d'un procès.
Dit l'homme. Nous mangeâmes ensemble, l'homme poursuivit.
Je m'appelle Don José. Je n'ai rien avalé depuis 48 heures.
Et il mangeait comme un loup affamé.
Nous allons avec mon guide à la Venta del Cuervo.
Lui dis-je.
Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur. J'y vais. Si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble.
Très volontiers, dis-je en montant à cheval. Le guide me signala d'un signe des yeux que cet homme était dangereux. Je n'en tenais pas compte.
Vous avez des voleurs de grand chemin. Il y a en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria. Ses exploits sont dans toutes les bouches. Tout le monde loue sa bravoure et sa générosité.
José Maria n'est qu'un drôle,
répondit froidement Don José. Je regardai attentivement mon interlocuteur.
Oui, c'est bien lui. Il correspond au signalement, j'en suis sûr et certain. Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites, une chemise fine avec une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres, un cheval bai. Plus de doute, c'est lui, mais respectant son incognito.
Nous arrivâmes à la Venta. Dans ce charmant séjour se trouvaient une vieille femme et une petite fille de 10 à 12 ans, toutes les deux de couleur de suie, vêtues d'horribles haillons. En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une exclamation de surprise.
« Ah, Seigneur Don José !»«
Mais oui, c'est Don José !»
répéta la petite fille.
« Donne pour ce soir un excellent dîner à nos invités. Un vieux coq fricassé avec du riz et force piment, des piments à l'huile, du gazpacho et enfin du vin de Montilla. Vous verrez, il est excellent. »
dit la vieille femme.
« Savez-vous jouer de la mandoline ?»
demandai-je à l'enfant.
« Non,
répondit-elle.
« Mais Don José, on se joue si bien !»«
Soyez assez bon !»
lui dis-je.
Pour me chanter quelque chose, j'aime à la passion votre musique nationale.
Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête. Il me donne de si excellents cigares.
S'écria Don José d'un air de bonne humeur. Il prit la mandoline et chanta d'un air mélancolique.
Si je ne me trompe,
lui dis-je,
ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble aux orzicos que j'ai entendus dans les provinces et les paroles doivent être en langue basque.
Oui,
répondit Don José d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre et contempla le feu. J'essayai de rallumer la conversation, mais il ne répondit pas.
« Messieurs, je vous laisse, »
dit la vieille femme.
Je vais me coucher dans un coin de cette salle. Je vais récupérer ma vieille couverture trouée.
« Je te suis, grand-mère !»
Mon guide se levant m'invita à le suivre à l'écurie. Don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque.
« Où allez-vous ?»«
À l'écurie, » répondit le guide.
« Pourquoi faire ? Les chevaux ont mangé. Couche ici. Monsieur le permettra. »«
Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vit. Peut-être saurait-il ce qu'il faut lui faire. »
répondit le guide.
« Veux-tu me parler en particulier ? Tu sais, je n'entends rien aux chevaux et j'ai envie de dormir. »
Don José suivit Antonio à l'écurie et revint seul. Antonio s'occupait pendant ce temps-là du cheval car il estimait que c'était un animal précieux. La nuit vint et je m'enveloppai dans mon manteau. Don José se coucha devant la porte, non sans savoir renouveler l'amorce de son espingole. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans une pareille gîte. Je préférais dormir à la belle étoile. Je surpris Antonio.
Où est-il ?
Murmura Antonio.
Dans la venta. Il dort. Il n'a pas peur des punaises. Pourra donc emmenez-vous ce cheval ?
Antonio avait soigneusement enveloppé les sabots de l'animal avec les débris d'une vieille couverture.
Parlez plus bas, au nom de Dieu.
Me dit Antonio.
C'est José Navarro, le plus insigne bandit d'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. C'était une mise en garde.
Poursuivit mon guide.
Bandit ou non, qu'importe. Il ne nous a pas volé et je parierai qu'il n'en a pas envie. N'oubliez pas que nous avons sympathisé autour d'un cigare.
À la bonne heure, mais il y a 200 ducats pour qui le livra. Je prends mon cheval et pars immédiatement le dénoncer.
Que le diable vous emporte.
J'essayais de retenir mon guide Antonio, mais il partit alerter les gendarmes. Je réveillai en pleine nuit le bandit Don José et l'invita à quitter rapidement les lieux.
Ah, votre guide, votre guide. Je m'en étais d'abord méfié, mais... son compte est bon. Adieu, monsieur. Que Dieu vous rende le service que je vous dois. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un seul regret. C'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous.
Je me recouchai sur le banc lorsque je vis apparaître une douzaine de cavaliers. Ils étaient à la recherche du fameux bandit Don José. Antonio me gardait rancune. Il n'avait pas pu toucher ses 200 ducats. Nous nous séparâmes pourtant de bons amis à Cordoue.
Je passais quelques jours à Cordoue. On m'avait indiqué un manuscrit de la bibliothèque des Dominicains pour mes recherches. Je passais mes journées dans un couvent et le soir, je me promenais dans la ville. Au dernier tintement de l'Angélus, les femmes de Cordoue vont se baigner dans l'eau de la rivière. Elles attendent la nuit, se déshabillent et entrent dans l'eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Un soir, à l'heure où on ne voit plus rien à Cordoue, je fumais, appuyé sur le parapet du quai. Une femme remontait l'escalier qui conduit de la rivière. Elle vint s'asseoir près de moi. Elle était toute de noir, vêtue contrairement aux autres Andalouses, qui aimaient s'habiller à la francesa. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin. Elle était pauvrement vêtue. Elle était petite, jeune, bien faite et avait de très grands yeux. À son approche, je jetai mon cigare.
Seigneur, ne me croyez pas indisposé par l'odeur de votre cigare. J'adore l'odeur du tabac. Vous savez, j'aime que l'on m'offre des papelitos bien doux. Les papelitos sont des cigares, le saviez-vous ?
Par bonheur, mademoiselle, j'en ai dans mon étui, en voulez-vous ?
Et je m'empressai de lui en offrir. Elle daigna en prendre un et l'alluma, mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps que nous retrouvâmes presque seuls sur le quai.
Ne serais-je pas trop indiscret si je vous proposais de manger une glace à la Neveria ?
Oui, pourquoi pas ?
Répondit-elle après une hésitation modeste.
Mais quelle heure est-il, s'il vous plaît ?
Je fis sonner ma montre et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup.
Quelle invention on a chez vous, messieurs les étrangers ! De quel pays êtes-vous, monsieur ? Anglais, sans doute.
Français, et votre grand serviteur. Et vous, mademoiselle ou madame, vous êtes probablement de Cordoue ?
Non.
Vous êtes du moins andalouse, il me semble le reconnaître à votre doux parler.
Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis.
Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis.
Bah, le paradis ? Les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous.
Alors, vous seriez donc mauresque ou...
Je m'arrêtais, n'osant dire.
Juive.
Allons, allons. Vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la badji, la bonne aventure ? Avez-vous entendu parler de la Carmencita ? C'est moi.
Je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière.
Bon,
me dis-je.
La semaine dernière, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Et maintenant, je mange une glace avec la servante du diable.
Qui sait de quel émoi cette
C'était de ma faute. J'avais un goût trop prononcé pour les sciences occultes et la magie des ténèbres.
Tout en causant, Carmen et moi étions entrés dans la Neveria.
Venez, nous allons nous asseoir à cette petite table. Je vous dirai la bonne aventure.
Me dit Carmen. J'eus alors tout le loisir d'examiner ma gitana. Elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation. Sa peau était parfaitement unie. Ses yeux étaient admirablement fendus. C'était une beauté étrange et sauvage. Ses yeux avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche.
Œil de bohémien, œil de loup.
Dit le dicton espagnol. Carmen avait le regard d'un loup ou d'un chat quand il guette un moineau. Je me disais en moi-même.
Il est ridicule de se faire tirer les cartes dans un café.
Puis demandai à Carmen.
Pourrions-nous aller chez vous ? Il n'est pas très discret de se faire tirer les cartes dans une Neveria.
J'accepte.
Me dit-elle.
À une condition. Faites sonner votre montre, s'il vous plaît. Montrez-moi la marche du temps. Et votre montre est-elle vraiment en or ?
Me dit-elle en la considérant avec une excessive attention. Arrivée chez Carmen, nous rencontrâmes un enfant avec lequel elle parlait en romani, l'idiome des gitanos. À peine arrivée chez Carmen, nous fûmes très vite dérangés. Un homme de fort mauvaise humeur parlait avec fougue avec Carmen. Le mot de payo, désignant l'étranger, était le seul mot que je comprisse. Mais subitement, l'intrus repoussa rudement la bohémienne et s'avança vers moi.
Ah, monsieur, c'est vous !
Je reconnus mon ami Don José.
Ah, c'est vous, mon brave !
Répondis-je en essayant de ne pas rire jaune. Je regrettais de ne pas avoir dénoncé ce bandit de grand chemin.
Toujours la même,
marmonna-t-il entre ses dents. Et je fus invité à partir. Il fusillait Carmen du regard qui le méprisait effrontément. Don José me prit le bras, ouvrit la porte et me conduisit dans la rue.
Toujours tout droit et vous trouverez le pont,
me dit Don José. Arrivé au couvent des Dominicains, un des pères m'accueillit les bras ouverts.
Loué soit le nom du Seigneur. Soyez le bienvenu, mon cher ami. Nous vous croyez tous morts. Ainsi, vous n'êtes pas assassiné. Vous ne savez pas que vous avez été volé ?
Comment cela ?
Lui répondis-je un peu surpris.
Vous savez bien, votre belle montre à répétition a été retrouvée. On vous la rendra.
C'est-à-dire ?
Répondis-je.
Le coquin est sous les verrous. Vous ne risquez plus rien. Nous mourions de peur qu'il ne vous ait eu tué. Vous allez devoir témoigner contre ce malfrat. Le tribunal de justice vous attend.
Je vous avoue que j'aimerais mieux perdre ma montre que de témoigner en justice pour faire pendre un pauvre diable. Surtout parce que...
Oh, n'ayez aucune inquiétude. Votre Hidalgo ne sera pas pendu, mais garrotté après-demain sans rémission. Cet individu a commis plusieurs meurtres, tous plus horribles les uns que les autres.
Comment se nomme-t-il ?
On le connaît dans le pays sous le nom de Don José Navarro, mais il a un autre nom basque. Il faut que vous sachiez comment, en Espagne, on exécute un coquin. Allez lui rendre visite. Il est en chapelle et le père Martinez vous y conduira.
On m'introduisit auprès de Don José au moment où il prenait son repas. Je lui offris des cigares.
Je vous remercie,
me dit-il.
« Voudrez-vous me rendre un service ?»«
Bien sûr,
lui répondis-je. »«
Si vous passez par la Navarre, plus exactement par Vitoria, qui n'en est pas très éloigné, eh bien, si vous allez à Pampelune, je vous donne une médaille. »
Il s'arrêta un instant pour maîtriser son émotion.
« Vous ferez remettre à une bonne femme cette petite médaille d'argent. Vous direz que je suis mort. Vous ne direz pas comment. »
Je vous le promets.
Je suis né à Elizondo, dans la vallée de Bastan. Je m'appelle Don José Lizarra Bengoa. Je suis basque et vieux chrétien. Je devais être un homme d'église, mais j'aimais trop jouer à la paume. C'est ce qui m'a perdu. Un jour, que j'avais gagné, un gars de l'Alava me chercha querelle. Je blessai mon adversaire et fus obligé de quitter le pays. Je m'engageai alors dans un régiment de dragons. Je devins brigadier et on me promettait de me faire maréchal des logis. Mais pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture des tabacs de Séville.
C'est là que vous avez rencontré Carmen pour la première fois ?
Demandai-je. Oui, avant de le découvrir, j'entendis les bourgeois et les bourgeoises dire
« Voilà la Ritania !»
Je la rencontrai la première fois un vendredi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis immédiatement tombé sous son charme. Elle avait une mantille et une fleur de cassis à la bouche. Elle avait l'air fière. Carmen s'avançait en balançant ses hanches. Elle était effrontée comme une vraie bohémienne. Elle me dit
« Compère, veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort ?»
Je me sentis rougir. Elle prit la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche et me la lança. Cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Droit au cœur. J'attrapai en cachette cette fleur que je mis rapidement dans ma veste. Première sottise. Puis on vint nous chercher un portier tout haletant vint nous prévenir.
« Il y a une femme assassinée. Vite !» Prenez deux hommes et allez voir ce qu'il se passe.
Je prends mes hommes et je monte. Nous vîmes une femme qui criait
« Confession, confession, je suis morte !»«
Que se passe-t-il »
dis-je. Les ouvrières parlaient tout à la fois.
« La femme blessée s'est vantée d'avoir assez d'argent pour acheter un âne !»
Carmen s'est énervée.
Oui, Carmen lui a fait des croix de Saint-André sur le visage.
« Quelle horreur !
Aidez-nous !»
Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras et lui dis « Ma sœur, il faut me suivre. Je t'emmène à la prison. »
« Marchons, où est Mamanchi ?»
me demanda Carmen. Elle suivit mes deux hommes, douce comme un agneau. Nous nous mîmes en route. D'abord, Carmen garda le silence, puis arrivée dans la rue du Serpent, elle me dit
« Cette rue mérite bien son nom par tous ses détours. Mon officier, où me menez-vous »
me dit-elle après avoir retiré sa mantille et montré son minois en geôleur.
« Laissez-moi m'échapper, je vous donnerai la barlachi, la pierre philosophale de l'amour, et vous serez aimé de toutes les femmes. »
« Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Allons, il faut aller en prison. »
« Camarade de mon cœur, êtes-vous du pays ?»
me demanda-t-elle en basque.
« Notre langue est si belle que je me mis à tressaillir, et j'évoquai mon pays natal. »
« Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une païse ?»
poursuivit Carmen.
« Elle mentait, monsieur. Elle a toujours menti. Mais j'étais un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. J'étais tout près d'enfer. J'étais fou amoureux de Carmen. Ah, je commis l'irréparable. »
J'étais un homme ivre et je la laissais s'échapper. Oui, seigneur, je commis l'irréparable. Je me laissais exprès tomber à la renverse pour que Carmen puisse s'enfuir. Elle me mit un coup de poing dans la poitrine, sauta, se mit à courir en nous montrant une paire de jambes. En moins de temps qu'il ne fallut, la prisonnière avait disparu. Les commères du quartier nous indiquaient la fausse voie.
Elle est passée par ici.
Mais non, par là.
Je l'ai vue, vous dis-je, passez par là.
Mais pas du tout, que racontez-vous?
Toutes se moquaient de nous. Je fus jetée en prison pendant un mois et je me disais en moi-même.
Adieu, les galons de maréchal des logis. Il va falloir travailler 10 fois plus que les autres. Je me suis fait avoir par une coquine de bohémienne. Carmen s'est bien moquée de moi. Maudite femme!
Le croirez-vous, monsieur? Je ne pouvais m'empêcher de penser à Carmen.
Parmi toutes les femmes qui passent, pas une n'a sa beauté. Il y a des sorcières et cette fille-là en est une.
Pensais-je en humant la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée. Un jour, le geôlier rentra et me dit
« Tiens, voici du pain que ta cousine t'envoie. »
J'étais surpris, n'ayant pas de cousine. Je résolus de manger le pain, quelle surprise. Je trouvai une lime anglaise et une pièce d'or de 2 piastres. Pas de doute, c'était un cadeau de Carmen. Rien n'est plus précieux chez les gitans que la liberté. J'avais mon honneur de soldat et je ne voulais pas déserter. Au bout d'un mois, je revins en salle et fus dégradé. Je fus mis en faction comme un simple soldat à la porte du colonel. Il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous chez lui. Mais un jour, Carmen descendait de la voiture du colonel.
« Bonjour, camarade !»
me dit-elle. Elle vint danser, je compris que c'était véritablement amoureux ce jour-là. En partant, avec sa troupe de bohémiennes, elle me jeta.
« Quand on aime la bonne friture, on va manger chez Lila Spaccia à Triana. » J'irai danser le sigedi, boire du manzanilla. J'irai chez mon ami l'Ospastia.
Je m'exécutai, nous nous retrouvâmes.
Je ne fais plus rien de la journée, allons nous promener.
M'ordonna-t-elle.
Mademoiselle, je crois que j'ai à vous remercier. Je garde la lime, mais vous rends votre argent.
Tiens, il a gardé l'argent.
S'écria-t-elle en éclatant de rire.
Si tu n'en veux pas, je m'empresse de faire quelques achats. Allons, mangeons tout, tu me régales.
Nous achetâmes du saucisson, des oranges, des fruits confits. Quand nous arrivâmes chez elle, Carmen se mit à danser et elle disait.
Tu es mon Rome, je suis ta Romy.
Et elle ne cessait de répéter.
Je paye mes dettes, je paye mes dettes.
Monsieur, ce fut une journée splendide.
Ah, monsieur, cette journée-là.
Mais le soir vint et j'entendis les tambours qui battaient la retraite.
« Il faut que j'aille au quartier pour l'appel, »
lui dis-je.
Au quartier ? Tu es un vrai canari, un vrai poulet docile. Je n'aime pas les hommes sans caractère. Méfie-toi, je vais te quitter.
Me dit-elle d'un air de mépris.
Quand te reverrai-je ?
Lui demandai-je.
Écoute, Josetto, je ne te dois rien. Tu es un paillot. Certes, tu es un joli garçon et tu m'as plu, alors nous sommes quittes.
Enfin, quand te reverrai-je, Carmen ?
Répétai-je.
Quand tu seras moins niais. Sais-tu, je crois que je t'aime un peu. Mais cela ne peut pas durer. Chien et loup ne font pas longtemps bon ménage. Peut-être, si tu prenais la loi d'Égypte, j'aimerais devenir ta Romy. Mais ce sont des bêtises. Crois-moi, tu as rencontré le diable. Oui, le diable. Allons, adieu encore une fois. Ne pense plus à moi, ne pense plus à la Carmencita.
Depuis ce jour, je ne pensais plus qu'à Carmen. Je retournais dans sa rue et tout le monde prétendait qu'elle était partie au Portugal. Je me morfondais. Un soir, j'étais de faction et je vis une femme venir vers moi.
Quoi ? Vous voilà, Carmen.
Oui, mon pays. Parlons bien, parlons peu. Veux-tu gagner un douro ? Tu laisseras passer des gens avec des paquets.
Non, je dois les empêcher de passer. C'est la consigne.
La consigne. Aucune importance, rien à faire de la consigne.
Je ne veux pas de l'argent des contrebandiers.
Voyons, si tu ne veux pas d'argent, veux-tu aller dîner chez la vieille Dorothée ?
Non, je peux pas.
Dis-je à moitié étranglé.
Très bien, j'offrirai à ton officier d'aller chez Dorothée.
Alors j'eus la faiblesse de rappeler ce démon en laissant passer toutes les contrebandiers de la bohème en échange de mes entrevues avec Carmen. Le lendemain, j'allai rue Candelidio rejoindre Carmen. Elle était de mauvaise humeur.
Je ne t'aime plus. Va-t'en. Voilà un peu d'argent pour ta peine. Tiens, prends ce douro et ne reviens plus.
Nous nous disputâmes pendant une heure et je sortis furieux. Un soir, je reviens chez Dorothée et je surpris ma belle Carmen avec un officier.
Va-t'en, vite !
Me dit-elle en basque. Je restais stupéfait, la rage dans le cœur.
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Me demanda l'officier.
Des camps, hors d'ici.
L'officier sortit son épée, je dégainai et lui mis la pointe au cœur. Il s'enferra, je me mis à courir dans la rue sans savoir où aller. Quelqu'un me poursuivit, c'était Carmen.
Grand niais de canaris, je te l'avais pourtant dit que je te porterais malheur. Tiens, prends ce mouchoir et pose-le sur ta tête. Il faut arrêter le sang.
Elle me fit boire un remède de sorcière et je ne me réveillai que tard le lendemain.
Mon garçon, il faut que tu fasses quelque chose. Rends-toi utile, deviens contrebandier et va te cacher dans la montagne.
Si je tiens dans la montagne, je serai sûr de toi. Pas d'officier avec lequel te partager.
Mais tu es jaloux, comment es-tu assez bête ?
Je sortis de ces villes déguisé en marchand anglais. Je pris ma place dans la horde des contrebandiers. La vie de contrebandier me plaisait plus que la vie de soldat. J'avais de l'argent et j'avais une maîtresse. J'étais si faible devant cette créature que je répondais à tous ses caprices.
« Tu es le diable !»
lui dis-je.
« Oui !»
me répondit-elle. Nous fûmes ensuite suivis par une douzaine de cavaliers qui tuèrent certains d'entre nous et nous forcèrent à jeter nos marchandises et à abandonner nos mulets. Carmen dut partir pour Gibraltar. On disait qu'il y avait de l'or anglais fortuné. Je me mis alors en route pour retrouver Carmen. Mais quel désastre, quel déshonneur! Arrivé à Gibraltar, je la retrouvai richement parée au bras d'un anglais. Nous le détroussâmes et je tuai mon rival en amour, le borgne Garcia. Nous repartîmes sur les routes comme des bandits de grand chemin. J'appris que Carmen avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche à Malaga. Je me mis en colère.
Sais-tu que je ne t'aime moins ? Je ne supporte pas d'être commandé. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. Prends garde à toi. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelques bons garçons qui te fera comme tu as fait au borgne.
Un jour, nous fûmes surpris par la troupe et je fus grièvement blessé. Pendant 15 jours, Carmen me soigna. Une fois rétabli, je dis à Carmen
« Sauvons-nous. Partons pour le nouveau monde et vivons honnêtement. »
Nous ne sommes pas faits pour planter des choux. Notre destin à nous, c'est de vivre aux dépens des paillots.
Et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, Carmen alla voir de nombreuses courses de taureaux. Elle me parlait constamment de Lucas, un picard d'or, Juanito, le camarade qui m'était resté me dit
« Méfie-toi, Don José, il faut vraiment t'alarmer de la situation. J'ai vu Carmen au bras de ce jeune picador. C'est un bon cavalier et un caillard de cœur. Carmen veut l'enrôler dans notre bande. »
J'en parlais à Carmen. Nous eûmes une violente dispute et je la frappai. 3 jours plus tard, elle revint me voir. Elle était souriante et me cachait la course des taureaux où Lucas allait parader.
Je t'en supplie, Carmen. Viens avec moi. J'oublie tout. Je ne te reprocherai rien. Jure-moi une chose. C'est que tu vas me suivre en Amérique et tu t'y tiendras tranquille.
Non, je ne veux pas aller en Amérique. Je suis bien ici.
C'est parce que tu es près de Lucas. Mais tu sais, Carmen, je suis fatigué de tuer tous tes amants. À la fin, c'est toi que je vais tuer.
J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre. Vois-tu, c'est écrit, tu vas me tuer.
Carmen Tita, est-ce que tu ne m'aimes plus ?
lui demandai-je. Elle ne répondit rien. Nous partîmes, nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval.
Carmen, veux-tu partir ? Je t'en prie, sois raisonnable. Écoute-moi. Tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen, ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi.
Lui répétai-je.
José, tu me demandes l'impossible, je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. Tu as le droit de me tuer, mais Carmen sera toujours libre. Kali, elle est née, Kali, elle mourra.
Tu aimes donc Lucas ?
Oui, je l'ai aimé comme toi, un instant. À présent, je n'aime plus rien, et je me hais de t'avoir aimé. T'aimer encore, c'est impossible.
Pour la dernière fois, veux-tu rester avec moi ?
M'écriai-je.
Non, non, non.
Dit-elle en frappant du pied. Elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau de Garcia Leborn que j'avais pris. Son grand œil noir me fixait, puis il devint trouble et se ferma. J'enterrai Carmen dans une forêt. Je retrouvai la bague et la mis dans une fosse auprès d'elle. Arrivé à Cordoue, je me fis prisonnier au premier corps de garde.